Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien au Café Service. Et nous allons parler à présent du développement, comment développer, comment relever les défis de développement de la province du Kasaï oriental. L'honorable sénateur Alphonse Ngoï Kasanji, gouverneur honoraire de cette province, est notre invité. On va le recevoir dans les minutes qui suivent. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 085 42 11 547. 085 42 11 547. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Paul Badianyama à la mise en onde. Benjamin Moudoumbi coordonne et réalise cette émission que présente Jody Daniel Kajama au micro. Voilà, et Jean-Marc Matouaki assure la coordination. Bienvenue à tous.
Radio Capi. Radio Capi annonce une nouvelle grille de programme à partir du lundi 12 janvier 2025 avec un nouvel horaire. Retrouvez désormais le journal en swahili du lundi au vendredi, le matin à 4h30 et le soir à 17h05 heure de Kinshasa. Le journal en Chiloba interviendra tous les jours à partir de 5h du matin et les soirs à 17h30 heure de la capitale. Le journal anti-Congo est à suivre le matin à 5h30 et le soir à 18h30 heure de Kinshasa. Le journal en Lingala garde son horaire habituel du lundi au vendredi, le matin à 6h30 et le soir à 18h45 heure de Kinshasa.
Oui, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous allons parler aujourd'hui des défis à relever dans le développement de la province du Kasaï oriental. Vous savez, cette province du Kasaï oriental fait face à des défis majeurs de développement, notamment la pauvreté, le chômage, la mauvaise gouvernance, la défaillance des services sociaux de base tels que voilà les problèmes d'eau, d'électricité, la santé, etc. Alors la chute de la minière de Bakouanga, la MIBA, a entraîné une pauvreté accrue, la détérioration des conditions de vie et des départs massifs de la population vers d'autres provinces, notamment vers l'espace Grand Katanga. Cependant, la province est renaît petit à petit de ses cendres avec des projets tels que l'asphaltage de routes, la construction d'une université moderne, la modernisation de l'aéroport, etc. Alors cependant, quels sont les autres défis à relever pour relancer les développements socio-économiques de la province du Kasaï oriental? Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir l'honorable Alphonse Ngoï Kasanji, sénateur et gouverneur honoraire de cette province. Honorable, bonjour et nos meilleurs voeux pour
merci,
l'année nouvelle. Merci,
meilleurs voeux à vous aussi.
Désolé, vous étiez un peu bloqué dans les bouchons pendant près de 2 heures.
C'est Kinshasa. Kinshasa, on n'arrive pas à l'heure. Oui. Pas nécessairement par la volonté de celui qui veut, mais bon. Nous dépendons des aléas, des embouteillages.
Tout à fait. Alors, nous parlons du développement de la province du Kasaï oriental que vous avez dirigé pendant plusieurs années. Alors, où est-ce que vous avez, dans quel état vous avez laissé cette province et aujourd'hui, comment vous évaluez la suite?
Bien, comme vous le savez, la province du Kasaï oriental est située au centre de la République. Et par conséquent, il y a les défis de l'enclavement, du désenclavement de la province, donc sa position.
C'est au centre.
C'est au centre, il y a l'enclavement. Il faut la désenclaver. Donc, nous apprécions les projets de désenclavement qui sont en cours, qui avaient commencé depuis, qui s'était arrêté, la route nationale qui s'était arrêtée à Chikapa et qui se poursuit, les travaux se poursuivent maintenant vers Kananga. Et il y a déjà des financements pour arriver à Mbujimayi et poursuivre vers le Katanga. Donc entre Mweneditu et Mbujimayi, il y a déjà les travaux qui ont commencé. Sur la route nationale numéro 2, il y a le financement de la Banque mondiale pour nous relier vers le sud, la province sud Kivu, en passant par la province de Maniema. Et donc ça, c'est pour les désenclavements de la province. Nous pensons que le désenclavement total viendra par relié également par la voie ferrée, mais aussi les travaux qui se poursuivent de la route entre Kananga et Kalambambouji vers l'Angola. Ceci permettra l'approvisionnement et les exportations de proximité pour éviter d'aller vers 2000 km. Là, nous en sommes à moins de 500 km. Donc voilà, ce sont d'abord sur le plan du désenclavement de la province. Mais nous avons les défis des investissements. Les investissements, comme vous le savez, créent de l'emploi.
Oui.
Oui, soutiennent l'économie de la province. Et donc là, les investissements, nous n'avons pas les investissements qui s'évaluent autour actuellement, pas 50 millions de dollars. Donc pour une province comme la nôtre, les investissements qui existaient, 500 millions de dollars de l'Assassim, ont été mis à terre à cause d'un arrêté qui vient d'être abrogé, mais qui a mis cette société à terre, en panne, en faillite. Et à ce jour, il faut également des investissements pour relever l'entreprise.
Donc on peut dire que toute l'économie de cette province dépendait de la MIBA. Depuis l'effondrement de la MIBA, c'est le chaos.
Bien sûr, ça dépendait de la MIBA en partie, mais aussi... Ça a dépendu de l'Assassim, de la Brassimba, à un moment donné. Alors, quand l'Amiba ne produit pas, quand l'Assassim ne produit pas, quand Brassimba a fermé, il n'en existe rien. Donc, il faut alors booster les investissements, orienter les investissements vers la province, parce que ce ne sont pas des richesses minières, des richesses du sol et le potentiel... agro-pastoral qui manque dans la province.
À l'époque, vous avez même initié l'agriculture priorité des priorités.
Bien sûr.
Chaque membre du gouvernement devait avoir un champ de maïs.
Exactement.
Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat?
Les résultats étaient extraordinaires parce que la province exportait le maïs au lieu d'en importer. Donc, qu'on dépendait du Katanga et du Kasaï central. Dès lors qu'on a veut initier, lancer ce projet, eh ben, la province avait commencé à exporter vers le Kasaï central et vers le Katanga. Mais il faut pérenniser le projet. Donc ça n'a pas suivi. Donc, il y a eu, je peux dire rejet, carrément de rejet du projet. Voilà.
Et pourtant, c'était un projet intéressant, l'agriculture.
Voilà, on n'a pas pérennisé ça. On n'a pas su pérenniser par les successeurs.
Ouais. Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons des défis et développement de la province du Kasaï oriental. Gaston Ngandou, vous êtes à Kinshasa et Ibrahim Ramazani nous appelle de Bounia. Gaston, bonjour.
Bonjour, Jody. Je salue aussi monsieur l'ex-gouverneur. Je pense qu'il est actuellement député.
C'est le même sénateur.
Ah, voilà. Si je pense à un membre du gouvernement de la contrée qui devrait nous fixer quant à ça, mais lui, peut-être, il a des images de l'époque où il était encore... ou peut-être, il suit en tant que représentant, la contrée suit comment les choses évoluent. Mais je voulais avoir une idée pourquoi on n'a pas la politique des programmes des 20 ans, 30 ans qu'il faut exécuter. Un programme, par exemple, au niveau de la province, un programme que tout le monde doit suivre. Un programme je peux dire décennal. Pourquoi c'est pas cette politique-là? J'imagine à son temps, s'il y avait un programme que lui suivait, et ses prédécesseurs aussi devraient suivre ce programme et peut-être dresser un bilan sur tout ce qui a été fait depuis et aujourd'hui par rapport à tous ces aspects-là liés au développement. Mais je voulais aussi demander un peu, parce que j'ai pu constater que la réalité, c'est pas ce que les autres nous disent. Si vous arrivez vraiment sur le terrain, moi je suis de la contrée, vous allez constater que les gens n'ont pas changé, la vie n'a pas changé. Donc, les gens ne produisent pas, l'État lui-même est là pour exploiter les simples citoyens. Là, il y a certains entrepreneurs, surtout dans les domaines commerciaux du terme, qui sont là, qui vendent, je pense que là aussi ils doivent payer les impôts, s'ils payent, je sais pas. Les Congolais eux-mêmes ne travaillent pas, Ce sont des simples artisanaux qui sont dans des diamants, des petits commerces, mais qui ne donnent pas vraiment grand chose.
Donc, il y a pas assez de production, vous voulez dire, dans la province?
Non, il y en a pas. Je vous mens pas, Les quelques Congolais qui produisent, c'est pour la survie. S'il y a des commerçants dans le vrai sens du terme, ou soit des entrepreneurs, si on peut le dire ainsi, sont certains politiciens qui ont des structures qu'ils ont créées là-bas, mais aussi les expatriés qui œuvrent actuellement dans tous les domaines, presque même les commerces en détail, tout.
D'accord.
Alors, je voulais un peu que l'invité puisse un peu nous expliquer, est-ce que dans cette dans de telles conditions, pouvons-nous attendre un développement dans la contrée, où on voit même la population qui ignorante. Parce que je voulais un peu demander aussi à l'invité sur ces aspects-là, parce que quand on parle de développement, c'est intégral. Il y a le développement,
c'est
par exemple...
C'est multidimensionnel, oui.
Personnel. Ah, oui, oui. Quand on parle personnel, par exemple, le développement personnel, nous constatons que la plupart des gens qui sont là-bas, en réalité, je ne sais pas s'ils étudient d'ailleurs, ils sont des ignorants.
Bon, gens, Gaston, ça c'est votre point de vue. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Oui, oui, merci d'avoir appelé. Ibrahim Ramazan, vous êtes à Bounia. Bonjour, et quelle est votre question?
Oui, bonjour. Je vais poser la question par rapport...
Oui, allez-y rapidement. Quelle est la question par rapport au développement de la province du Kassai oriental?
Je vais poser la question par après.
Bon, ok, on va vous rappeler plus tard. Monsieur Ngoï Kassan, je vous avais la parole.
Merci. Je réponds à Monsieur Gaston en disant que je représente toute une population. Donc, j'ai été élu député provincial, national et je suis sénateur. Donc, à ce titre, je suis la situation économique de ma province et ses perspectives de développement. Et je les défends ici au niveau du Parlement. Et donc, je suis qualifié pour pouvoir parler au nom de ce peuple pour ce qui concerne le développement de notre province. Alors, je commence par dire, bon, il faut tempérer le langage en qualifiant tout un peuple d'ignorant. Je crois que c'est un peu désolant parce que bon, nous sommes là, nous sommes pas tous ignorants. Et je travaille d'ailleurs mon mémoire de troisième cycle en droit de l'homme sur la situation économique de la province dans les domaines de la santé et de l'éducation. Donc, comme pour dire que le développement doit être global, donc doit se baser d'abord sur le capital humain. Oui. Si l'homme est éduqué, il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux, donner les soins de qualité à la population. Donc l'homme doit être éduqué, l'homme doit être en bonne santé.
D'abord le capital humain.
Pour le capital humain. Alors c'est dans ce sens-là qu'il faut des moyens. Pour investir, il faut des moyens. Il faut que l'économie puisse pourvoir soutenir les projets de développement dans ces domaines-là.
Aujourd'hui, par exemple, la province a des beaux bâtiments pour la toute première fois, des bâtiments.
Bien sûr, nous tenons à remercier le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'université. Mais je crois que bien que c'est beau, bien que ça avance, mais ça ne suffit pas. Donc l'université est tellement grande, il faut ajouter d'autres bâtiments. Et il n'y a pas que l'université officielle de Mbujimayi, il y a également l'université de Mbujimayi et d'autres institutions universitaires. Donc il faut prévoir des infrastructures capables d'accueillir les étudiants.
Oui. Aujourd'hui, on dit que la province a plus de 100 km de routes asphaltées. C'est quand même quelque chose de bien.
Bien sûr, dans la ville de Mbujimayi, comme je l'ai dit, est la route nationale numéro 1 vers Mweneditu. Là, nous apprécions cela, mais nous aurions souhaité que les travaux s'accélèrent, par exemple sur l'axe Mbujimayi, Kabeya-Kamwanga, Kananga. Et de l'autre côté, les travaux qui sont en cours, qui relient Kabwe, donc la route nationale numéro 2, vers Samba, du côté du Maniema. Donc pour nous relier au sud Kivu. Ce sont les travaux à encourager qui permettent le désenclavement de la province. Et donc, je voulais dire ceci. Ce qu'il dit qu'il n'y a pas, je l'ai dit tout au début, il n'y a pas d'investissement. Il faut orienter les investissements. Parce que les activités qu'il dit des particuliers, etc., l'exploitation artisanale, qui n'est pas aussi assistée selon le code minier. Parce que le code minier prévoit qu'on doit assister l'artisanat minier en finançant, en encadrant, pour orienter la production dans les circuits officiels.
Donc il y a toujours des créseurs qui continuent à travailler.
Bien sûr, pour okay. éviter l'informel.
Oui.
Voilà. Donc.
Mais c'est une faible production.
C'est une faible production, mais qui n'est pas aussi canalisée, qui n'est pas assistée. Mmh. Les gens se battent en solo, etc.
Oui.
Donc voilà pourquoi il faut des investissements. Il faut une politique, comme partout ailleurs dans des pays développés. Dans chaque province, il y a au moins une grande activité qui soutient l'économie de cette province-là. Quand vous allez dans des États, vous trouvez, par exemple, l'État d'Indianapolis, vous trouvez Chrysler, qui est là. Dans plusieurs États, vous allez, par exemple, dans l'État de Washington State, vous trouvez Boeing, etc. Donc, oui. cette politique-là, par exemple, au centre-là, on y oriente des usines, une usine de montage de véhicules, par exemple. Oui. Ça va soutenir
une chaîne de valeur. Mais monsieur le gouverneur, on a appris qu'à part les diamants, il y a les cuivres dans cette province, il y a de l'or aussi, et d'autres matières premières.
Oui, je peux confirmer que c'est moi-même qui ai découvert le cuivre par
les
explorations.
C'est dans quelle partie de la province, vers
Donc
Boya,
c'est entre Katende, c'est à Katende, en allant vers Kabeyekamwa.
Ok.
Ces filons-là viennent du sud... du nord Katanga. Et donc notre cuivre a une particularité, il y a le nickel là-dedans, tandis que le cuivre du Katanga, du Araba, il y a le cobalt. Et donc le nickel est aussi une composante essentielle à la fabrication de la batterie électrique. Voilà
pourquoi il y a déjà des études qui ont été faites par rapport à ça.
Bien sûr, j'étais avec l'ancien DG de la Gécamines quand j'étais dans la mission d'enquête, qui m'a fait voir que pour la Gécamines, il avait un projet d'investir dans la MIBA pour s'occuper de l'exploitation du cuivre par rapport à cette composante-là de nickel.
Oui.
Voilà, mais ce projet n'avait pas abouti alors qu'ils attendaient les fonds qui venaient d'un contentieux entre la Gécamines et une entreprise qui allait donner des millions. Et la Gécamines avait prévu 360 millions. À investir dans la MIBA. Mais je regrette du fait que, bon,
mais
ça n'a pas marché.
Qu'est-ce qu'il faut pour attirer plus d'investissements dans
etc.
la province
Pour attirer les investissements, il faut d'abord, vous savez, l'énergie électrique booste le développement. Pas l'énergie domestique. À ce jour, nous avons déjà le peu.
L'énerca,
pour la population,
tout bidi.
La capacité, c'est.
Elle est faible.
Elle est faible. À ce jour, c'est 5, peut-être 5 mégawatts, etc. Ça ne peut pas vraiment booster les investissements. Donc, il faut une énergie capable d'appeler, de faire venir les investisseurs. Par exemple, pour le traitement du cuivre. Il faut une grande capacité énergétique.
Est-ce qu'il y a possibilité d'ériger un barrage dans la région ou pas?
Plusieurs sources d'énergie sont là. Vous avez sur la rivière Mbujumayi, au-delà de Tchala, vous pouvez avoir 34 mégawatts, vous pouvez avoir 10 mégawatts, on peut avoir au-delà de Loubi. Donc on peut atteindre 100 mégawatts facilement. Des potentiels que nous avons.
Oui. Oui, et certains disent qu'il faut aussi promouvoir l'entrepreneuriat. Gaston l'a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas assez de production dans la province.
Bien sûr, comme on le dit, l'entrepreneuriat devient important, produit, quand vous avez une économie forte. Quand vous savez, par exemple, produire et vendre, et puis évacuer aussi. Évacuer pour avoir une plus-value. Mais dès que ces possibilités-là ne sont pas là, c'est pourquoi il faut les désenclavements, c'est pourquoi il faut booster l'économie pour faire en sorte que la province capte des recettes. Quand l'AMIBA produisait avant, l'AMIBA soutenait les hôpitaux, soutenait les écoles, et les enfants étaient formés. Aujourd'hui, quand l'AMIBA ne produit pas, il y a des problèmes. Donc, alors qu'il y a 50 millions qui étaient promis, si ces 50 millions sont investis, eh ben, l'AMIBA commencera à se prendre en charge, à produire d'elle-même et à attaquer l'exploitation des kimberlites, etc. Mais je ne comprends pas comment ça tergiverse. Jusque-là, ça fera une année et quelques où cet argent n'est pas décaissé, où on met en place d'autres structures indépendantes du comité de gestion. Et donc, voilà, nous sommes sur ces questions-là, bien sûr.
Bien, on va accueillir Mathieu Alenda de Kinshasa et puis Albert Kolembela de Kisangani. Mathieu, bonjour.
Bonjour, cher Jordi, un patriote qui ne se déclare pas, mais qui se fait constater. Vraiment, j'ai beaucoup de respect envers vous pour un patriote que vous êtes en train d'abattre.
Merci
oui,
beaucoup.
Je suis, oui, hormis d'être enseignant, je suis aussi évangéliste, donc je viens du terrain du Kassai oriental pour avoir beaucoup sillonné des villages pour évangéliser. Et de prime abord, encore une fois, je dis merci à la radio Okapi pour son abnégation continuelle d'assurer notre éducation à l'instar international. Vraiment, chapeau bas à la radio Okapi.
Merci. Quelle est votre question?
Qui est oui, je vais directement à ma préoccupation. Chapeau bas à l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, pour avoir mis la barre très haut. Et jusqu'au moment où je parle, personne n'arrive à atteindre là où l'honorable Ngoïka a laissé la province. Vraiment, laissons retenir, il ne suffit pas seulement de dire d'avoir les sangs kassaïens, mais d'éprouver lorsque tu es dans la gestion de la reste publique à concilier la théorie à la pratique. Voici mes deux préoccupations, cher Jordi. Première préoccupation, l'honorable frère en Christ Ngoïka Sandi, comment vous pouvez faire pour aller sauver le Kassai qui est en train de mourir du jour au jour? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller sauver cette province-là? Cette province-là que vous avez mis au monde. Comment vous êtes en train de continuer à laisser le bébé qui a mis au monde de continuer à mourir, à se noyer dans l'eau? Première question. Ma dernière question. Cher honorable frère en Christ Ngoïka Sandi, est-ce que vous toujours frère en Christ du message de Branham?
Bon, est-ce que ici, ça c'est pas le sujet du jour, cher Alinda. Hein? Albert Kolembela, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour Radio Kapi.
Quelle est votre question par rapport au défi de développement de la province du Kassai oriental?
À ce qui concerne le développement de la province du Kassai, permettez-moi de dire que nous avons deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est la volonté politique. Le deuxième problème, c'est les activalaires. L'homme politique congolais n'a pas la volonté que le pays puisse émerger. Et vous allez écouter qu'ils parlent bien quand ils ne sont pas dans les affaires. Une fois qu'ils dans les affaires, ce sont eux qu'il faut accéder le pays ou la province en particulier puisse connaître un recul. Et deuxième volet, nous avons le problème lié aux activaleurs. Vous allez voir qu'on peut avoir les entreprises ici pour la réhabilitation des routes, pour quel problème. C'est les mêmes acteurs politiques qui sont les pions majeurs de ces entreprises et ils dilipendent et dilipident vraiment l'argent des contribuables congolais, sachant que nous sommes limités pour réclamer, il n'y a pas de capacité pour réclamer, ils demeurent comme ça. Et la plus grande question que je devrais poser à l'honorable Ngoï qui est dans votre plateau, est pourquoi l'homme politique congolais parle bien seulement quand il n'est pas dans les affaires.
Mais quand il arrive aux affaires, c'est autre chose. D'accord. Merci beaucoup.
Il arrive
aux affaires, ça change. C'est voilà. On les reconnaît plus. Merci d'avoir appelé. Ouais, merci pour toutes ces préoccupations. Ça. Honorable Ngoï Kassandji.
Bien, le premier intervenant, notre frère en Christ.
Votre frère en Christ.
Il s'appelle.
Il s'appelle Mathieu Alenda.
Mathieu Alenda. Bien, monsieur Jordi, je dois vous dire que bon, je tiens à le remercier pour avoir reconnu les efforts que nous avions consentis quand on était aux affaires. Bien, pour affirmer que tous les hommes congolais ne sont pas les mêmes. C'est pour répondre également au deuxième intervenant qui dit l'homme congolais parle quand il n'est pas aux affaires.
Oui, quand il n'est pas aux affaires, quand il arrive là-bas, il change.
Bon, nous, on était aux affaires avec peu de moyens et les contraintes qu'il y avait, on a su quand même capitaliser les choses.
Quel bilan on peut faire aujourd'hui de la gestion de Ngoï Kassandji, de la province?
Bien, Ngoï Kassandji, qui trouve la province dont la Meba était quasi en faillite, de dépeuplement des populations, des commerçants, etc., qui arrive, qui se bat et qui attire les investissements, qui fait en sorte que l'assassin existe, un investissement de 500 millions de dollars, qui engage plus de 1000 personnes et qui commence la production pour soutenir l'économie de la province. Le peu de recettes captées nous avons investi ça dans le route, l'asphaltage de route, 38 km de route asphaltée dans la ville de Mbujimayi. Les routes nationales dépendant de Kinshasa, on a fait des efforts et on a eu un peu d'argent de la BAD pour relier la province du Kasaï oriental aux deux provinces du Sankuru et de l'Omami. Nous avons boosté l'agriculture, priorité des priorités. Et voilà, on a produit, pas simplement pour nous-mêmes, mais pour d'autres provinces voisines.
Combien de tonnes de maïs vous évaluez, pouvez évaluer à combien?
Bien, quand c'est la production qui suffisait pour nourrir les fils du Kasaï,
oui,
et pour exporter, eh ben, à ce jour, je ne peux pas avoir l'idée de tonnage, mais au moins, ça nous suffisait pour nous et pour d'autres provinces voisines. Et on a vécu ça. Sur le site de la Radio Capi, vous pouvez voir qu'est-ce que ça coûtait en 2013, la mesure du maïs appelée Meka. Et aujourd'hui, ce que ça coûte, vous voyez qu'il y a une nette différence. Et je suis par contre d'accord avec ce qu'il dit des projets à long terme. Bon, moi j'ai fait 12 ans, comme je l'ai dit, c'est moi qui avais commencé brutalement ce projet de booster l'agriculture, mais il fallait qu'il soit pérennisé. Par exemple, j'avais laissé le projet du vallée de Kalelu, qui s'étendait sur la rivière Kalelu, du groupement de Benakayemba jusqu'à Achala. Mais, écoutez, il y a eu le problème de gestion, de mes gestions après, et ce projet n'a pas su évoluer.
Et à l'époque, comment vous faisiez pour trouver les semences? Parce que la grande difficulté aussi, c'est de trouver les semences de bonne qualité.
Bon, les semences, s'il faut le dire, il y a l'INERA qu'il fallait soutenir. Il y a aussi les agris multiplicateurs. Donc, il fallait aussi soutenir. Et nous travaillons
l'INERA
ensemble.
L'INERA est où, en Nganangika?
Non, il s'étendait partout, Ngandajika et un peu partout. Oui. Nous soutenions les agris multiplicateurs en achetant leurs semences et en finançant leurs activités. Voilà pourquoi il y avait les semences de qualité. Bien qu'aujourd'hui, il y a les hybrides qui vous produisent, au lieu d'une tonne et demie ou deux par hectare, vous pouvez en arriver à 8 à 9 tonnes par hectare. Non, ce qui est vraiment bon. Mais les hybrides, il faut les acheter à chaque saison. On ne peut pas les produire, nous n'avons pas une technologie pour pouvoir les reproduire sur place.
On va accueillir les auditeurs. Alain Chunza est à Kinshasa, Ibrahim Ramazani, vous êtes à Bounia, dans la province de l'Ituri. Alain Chunza, bonjour, et quelle est votre question rapidement?
Bonjour, monsieur le présentateur de l'émission. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, monsieur Chunza, quelle est votre question?
Oui, ma question reste de savoir, est-ce que monsieur le gouverneur honoraire de la province du Kasaï oriental pouvait se souvenir de ce qu'il avait fait comme gestion à la tête de la province et aussi les paroles prononcées qui avaient blessé presque la quasi-totalité de la province, voire même des insultes sur la chaîne AirPop?
Bien, merci. Ibrahim Ramazan est depuis Bounia, Ituri. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation, Ibrahim?
J'ai trois questions à poser à monsieur le gouverneur de la province.
Oui.
Première question. Quels sont les déterminants structurels, institutionnels et socio-économiques qui entravent le développement de la province du Kasaï oriental? Deuxième question. Dans quelle mesure les politiques publiques, provinciales et nationales contribue-t-elle ou non à la réduction des inégalités et la promotion du développement durable au Kasaï oriental? Troisième question, quelle stratégie de gouvernance, de mobilisation des ressources locales et de participation communautaire peuvent être mises en œuvre pour relever efficacement les défis du développement du Kasaï oriental? Ce sont là mes trois questions.
Merci beaucoup, monsieur Ibrahim. Monsieur le gouverneur honoraire, vous avez la parole.
Bien, monsieur Alain Chouza parle de
mes
gestions. Oui. Bon, je ne sais pas si lui, il est un organe attitré pour me qualifier d'avoir mal géré les fonds.
Oui.
parce que moi, pendant 12 ans, je n'ai pas été victime d'une motion concernant la gestion, non, du début à la fin. Et en même temps, les organisations, les organismes attitrés comme l'Inspection générale des finances ou la Cour des comptes, ils n'avaient jamais remarqué une gestion dans les chefs, dans mon chef, donc lors de ma gestion. Ça, ce sont des allégations mensongères. Ça n'engage que lui. Je suis désolé. Bon, il dit les allégations qui avaient blessé tout un peuple sur la radio est top. Sans les dire, bon, je ne connais
il
pas.
Il parle des insultes, des injures. Est-ce que Monsieur le gouverneur avait insulté sa population?
Je n'ai jamais insulté la population. Je suis chrétien, bon, pratiquant du message du temps de la fin, et donc nous ne pouvons pas insulter, et, même d'ailleurs selon mon éducation. Monsieur Ibrahim,
quels sont les déterminants qui entravent le développement? Qu'est-ce qui bloque les?
C'est tout ce que j'ai dit depuis que je suis arrivé. J'ai parlé des investissements, j'ai parlé du défi de des enclavements, j'ai parlé du défi de l'énergie pour booster le développement, etc. Mais là,
il y a aussi un problème de gouvernance.
Il y a un problème de gouvernance, la gouvernance. Voilà, donc c'est ces questions-là, mais aussi le respect des dispositions constitutionnelles. La province n'a pas de ressources, mais la province devait au moins avoir les ressources des recettes à caractère national. Donc les dispositions constitutionnelles, la retenue à la source, la répartition de ces mêmes rétrocessions pose problème jusqu'à aujourd'hui. Et l'application des dispositions constitutionnelles pose problème. Les provinces n'ont pas assez de moyens. Leur budget d'investissement, comme la province du Kassai oriental, là, comme il n'y a pas d'investissement, ils n'ont pas de recettes propres. On ne peut pas aussi obliger la population qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'emploi, où est-ce qu'elle va trouver, l'argent pour payer les taxes. Et donc, ce qui fait que, du coup, en ce qui concerne les recettes propres, c'est difficile de les capter. Les autorités provinciales ont des difficultés pour capter les recettes propres par rapport à la situation, à l'environnement économique très, très, très pauvre.
Très pauvre.
Mais non, c'est l'État qui devait supporter la province en respectant les décaissements des budgets d'investissement pour permettre aux provinces d'avoir les moyens de leur politique. Mais de ce côté-là, ça pose problème. Les budgets d'investissement ne sont jamais décaissés en faveur des provinces. Et c'est ce qui fait que la pauvreté s'accentue.
La misère est extraordinaire.
Vraiment extraordinaire. Et je peux dire, pratiquement dans toutes les provinces, en dehors de quelques provinces où il y a des investissements, comme Lualaba. Et là aussi, il faut voir comment est-ce que les fonds sont utilisés.
Il y a par exemple cette affaire des 3 millions de dollars qui avait créé beaucoup, jusqu'à aujourd'hui ça continue à créer à faire couler beaucoup d'encre dans la province.
Bien, voilà, donc ça, nous avons laissé cette question au niveau des autorités provinciales, ils savent ce qu'il y a, ce qu'il y a eu, qui a fait quoi, et donc ça, comme nous ne pouvons pas...
Est-ce qu'il y a eu des résultats palpables depuis... Est-ce qu'on a vu quelque chose ou un projet qui a été financé, etc.
Je crois que le gouverneur a pris l'engagement de relever le défi dans son budget qu'il a présenté pour 2026. Donc nous attendons la mise en œuvre de ce budget pour pouvoir évaluer les réalisations.
Blaise Atoubou, vous êtes à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Bonjour.
Bonjour, cher Jody, une fois de plus. Bonjour et bonjour à l'honorable Goïka Sandi, ainsi que auditrice sociale de la Radio Capi.
Rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Quelle est votre question?
Oui, je sais bien. Je dois aller tout de suite à quelques questions.
Oui.
La première question, comment le Kassai oriental peut-il réduire sa dépendance au diamant? La deuxième question, comment améliorer la gestion des ressources publiques au niveau des provinces? La troisième question, le développement du Kassai oriental doit-il d'abord être économique ou social? Avant de chuter, comment lutter efficacement contre la corruption dans la gestion des ressources provinciales? Et pour chuter, comment promouvoir l'entrepreneuriat local face au manque de financement? Voici les cinq questions que l'honorable Goïka Sandi peut quand même éclairer l'opinion.
Merci Blaise. Monsieur Kazadi Katombe, vous êtes au Kassai Oriental, bonjour.
Allô, monsieur, je dis bonjour.
Oui, bonjour. Quelle est votre préoccupation rapidement, comme on n'a plus beaucoup de temps?
Merci beaucoup de la parole nous accorder. Je dis bonjour à l'honorable sénateur Ngoïka Sanji. Si j'ai une préoccupation, c'est par rapport au fait de le problème qu'il avait soulevé récemment là, de 3 millions de dollars. Je sais pas, en tant que autorité législateur ou législatrice, qu'est-ce qu'il a fait à son niveau après la après que les gouverneurs soient remis dans ses fonctions, qu'est-ce que la population peut retenir? Cet argent a été réellement remis dans les comptes du gouvernement provincial ou bien cet argent s'est volatilisé seulement comme ça? Merci.
Merci, Monsieur Kazadi. Honorable Moïta Sanji.
Bien, si je peux résumer, M. Blaise, de Kisangani. Les perspectives pour ne pas dépendre du diamant, etc. Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut investir dans le domaine de l'agro-pastoral.
Oui.
Parce qu'à l'époque, il y avait sec. Kambaï, donc à Kambaï, à Miabi, dans les territoires de Miabi et Tchileng. Donc il faut relancer les activités.
Des projets agricoles.
Donc nous devons également orienter, l'État central doit orienter les investissements vers la province du Kasaï oriental. Il faut booster l'énergie, parce que l'entrepreneuriat dont il parle, l'entrepreneuriat doit être soutenu par l'énergie pour produire, et les routes doivent exister.
Et les routes des dessertes agricoles.
Pour évacuer
les produits.
Donc vers les centres de consommation,
oui.
Et aussi vers d'autres provinces pour avoir une plus-value. Donc c'est ça qu'il faut justement faire. Mais aussi, comme je l'ai dit, on ne peut pas sans moyens. Les autorités provinciales sont incapables de pouvoir réaliser leurs objectifs si et seulement si le budget d'investissement qui représente un gros montant dans leur budget n'est pas décaissé en leur faveur. Donc l'État central consomme et son budget d'investissement et les budgets d'investissement des provinces. Donc il faut que les dispositions constitutionnelles s'appliquent.
Oui.
Ça c'est pour dire un petit peu globalement. J'ai résumé ces quatre questions, ces quatre préoccupations.
Oui.
Maintenant, notre frère qui parle de 3 millions.
3 millions, ouais, qui était
au moment où j'ai informé la population, il existait dans le compte 2 millions quelque chose qui était en DAT. Alors, après, il est resté, quand le gouverneur a été réhabilité, il était resté 1 million et quelques. Bon, 5 millions et quelques ont été affectés au projet. Le reste, je ne sais pas comment est-ce que ça a été utilisé, mais c'est un problème qui se passe entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial.
Bien, on n'a plus de temps, on est arrivé à la fin de cette émission. Honorable Alphonse Ngoy Kasanji, sénateur et gouverneur honoraire de la province du Kasaï oriental, merci.
Merci beaucoup, M. Jordi. Aux auditeurs de la radio Capi. Je salue.
D'accord. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.